Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La reprise des hostilités cette nuit au Moyen-Orient en alerte, échange de frappes entre Américains et Iraniens, ce n'est pourtant pas le retour de la guerre, disent les États-Unis qui espèrent toujours un accord. L'avocat des parents de Liana qui interpelle le gouvernement et cible Emmanuel Macron, regrettant un manque de moyens accordés à la justice. Et à J-1 de la Coupe du Monde, les Bleus vont s'envoler pour les États-Unis, direction leur camp de base à Boston.
La tension remonte d'un cran ce matin au Moyen-Orient.
Des bases américaines ont été visées dans le Golfe par l'Iran, qui a répliqué à ces frappes menées par les États-Unis dans la nuit après la destruction d'un hélicoptère américain imputé à Téhéran. On va prendre la direction de Washington. Antoine Lard, vous êtes le correspondant d'RMC sur place. De nouvelles frappes qui pourraient faire penser à un nouvel embrasement de la région. Ce n'est pourtant pas la volonté de Donald Trump.
Oui, les forces américaines ont lancé une série de frappes contre des cibles militaires, notamment le long du détroit d'Ormuz. Ce sont des radars ou encore des défenses anti-aériennes qui ont été visées. Alors attention, ça n'est pas le retour de la guerre à grande échelle. Ce sont des frappes limitées. Le commandement militaire américain évoque une action, je cite, « proportionnée » après l'attaque iranienne contre un hélicoptère américain. Il y a clairement la volonté du côté de Washington de ne pas provoquer une escalade. Trump, on le sait, ne veut surtout pas reprendre les hostilités. Il veut un deal avec Téhéran. Ce qui l'a poussé ces derniers jours à ne pas répondre aux provocations iraniennes pour ne pas compromettre la diplomatie. Mais là, il ne pouvait pas rester les bras croisés et en ordonnant cette riposte, il montre qu'il y a des limites à ne pas franchir. Malgré tout, malgré cette montée de tension, Trump veut toujours croire qu'un accord est possible et qu'il pourrait être conclu dans les prochains jours.
Antoine Lard, à Washington ce matin pour RMC. On en vient à ce nouveau rassemblement à Saint-Jean-d'Angély, hier soir, marche blanche en hommage à Liana, organisée par les grands-parents de la jeune adolescente de 11 ans retrouvée morte la semaine dernière dans le Gers. Un drame qui aurait pu être évité. C'est ce que dit l'avocat des parents de Liana dans une conférence de presse. Il a dénoncé l'hypocrisie du gouvernement avant d'interpeller le chef de l'État, lui reprochant, Victor Girard, un manque de moyens.
C'est directement au chef de l'État que s'est adressé l'avocat de la famille de Liana, maître François Roujou de Boubet.
Par ma voix, cette famille endeuillée souhaite envisager les véritables responsabilités, celles des moyens qu'on accorde à la justice et à leur efficacité. Car oui, monsieur le Président, c'est le vrai cœur du problème.
L'avocat défend la gendarmerie du Gers et le parquet d'Auch mis en cause dans l'affaire, mais dont le travail a permis de localiser le corps de la collégienne, souligne-t-il.
Retrouver son corps tient du miracle. Et combien de parents n'ont pas eu cette chance? Si la justice avait eu plus de moyens, ce drame et tous les autres auraient pu être évités.
Maître François Roujou de Boubet répond également à Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui a demandé aux procureurs généraux de reprendre en urgence l'intégralité des plaintes impliquant des enfants.
Étudier 70 000 plaintes d'ici le 14 juillet, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et j'espère que personne n'est dupe, c'est impossible, à moins de mal faire son travail.
Avant de conclure, je cite, que chacun prenne ses responsabilités, même au plus haut sommet de l'État.
Et le gouvernement qui répond en partie à l'émoi provoqué par cette affaire, ouvrant la voie à la fin de la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Sébastien Lecornu lui a dévoilé les premières mesures intégrées au projet de loi sur la protection des enfants afin de permettre des enquêtes plus rapides et des peines plus lourdes. Dans le même temps, notez que le chef de la gendarmerie a reconnu un échec de l'institution en raison des plaintes déposées à l'encontre du principal suspect dans cette affaire.
RMC 7h04, la garde à vue de Patrick Bruel va prendre fin.
Interrogé sur le contenu de 13 plaintes déposées contre lui pour viol et agression sexuelle, l'interrogatoire du chanteur va se terminer aux alentours de 8h30. Pierre Bazin du service police-justice nous rejoint. Patrick Bruel sera déféré dans la foulée, présenté à un juge d'instruction après 48 heures d'audition.
Oui, il sera alors question d'une possible mise en examen du chanteur pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Une présentation qui peut prendre un peu de temps et intervenir plus tard dans la journée, puisqu'avant le passage de Patrick Bruel devant le juge d'instruction, ses avocats vont découvrir l'intégralité du dossier et devoir préparer des arguments de défense. À l'issue, s'il est mis en examen, c'est un juge des libertés et de la détention qui décidera cette fois de laisser le chanteur libre sous contrôle judiciaire ou de le placer en détention provisoire. Pour cela, le juge va évaluer notamment le risque de pression sur témoins ou de réitération de l'infraction. Mais ce qui est certain, c'est que peu importe l'issue de cette journée, Patrick Bruel n'en a pas fini avec la justice. Au moins 5 nouvelles plaintes ont été déposées ou vont l'être très prochainement pour des accusations similaires, selon plusieurs avocates.
Et ne manquez pas à 7h40 sur RMC le point avec la journaliste de Mediapart qui travaille sur cette enquête depuis 7 ans, qui avait révélé le dossier. 30 femmes qui ont donc témoigné et au moment où l'on se parle, au moins 14 plaintes contre Patrick Bruel.
Un incendie dans une cellule de la prison des Baumettes à Marseille fait un mort et deux blessés. La thèse du suicide et de l'un des détenus est à cette heure privilégié par les enquêteurs. La grève à la SNCF ce mercredi avec de fortes perturbations à prévoir si vous circulez en région. Ce sera le cas notamment sur les lignes du RER. En région parisienne, à l'échelle nationale, comptez un intercité sur deux et deux TGV sur trois. L'Irlande du Nord, secouée par de violents affrontements. Hier soir à Belfast, en marge de manifestations anti-immigration après une attaque au couteau imputée à un réfugié soudanais. Des appels à manifester lancés sur les réseaux sociaux par plusieurs figures de l'extrême droite britannique.
À plusieurs endroits dans la ville, des centaines de manifestants, pour beaucoup visages masqués et tout de noir vêtus, installent des barricades. Ils mettent le feu à plusieurs voitures. Dans l'ouest de Belfast, c'est un bus qui est incendié. Plusieurs habitations ont pris feu à cause de poubelles incendiées, de jets de cocktails Molotov. Les habitants ont été évacués. Des incidents que déplore la première ministre nord-irlandaise. Des hommes masqués brûlant des maisons de famille, ce n'est rien d'autre qu'une lâcheté répugnante, dénonce-t-elle. Tout cela fait suite à une attaque au couteau lundi soir par un réfugié soudanais, blessant gravement une personne. La vidéo de l'agression avait ému et choqué tout le pays. Plusieurs figures de l'extrême droite ont encouragé à manifester et les autorités qui ont appelé au calme hier n'ont pas pu empêcher ces débordements.
Un détail et précision de Lucas Laubert. Des manifestations aussi à Mexico. Des milliers d'enseignants ont bloqué l'accès au stade Aztec avant de se disperser hier soir dans le calme. C'est là que se tiendra demain le match inaugural de la Coupe du Monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud.
Les Bleus, eux, ne joueront pas au Mexique, mais aux États-Unis.
Ils vont s'envoler à 13h. Départ du Bourget direction Boston pour cette Coupe du Monde. On retrouve sur place notre envoyé spécial, Valentin Jamin. Vous allez suivre les premiers pas des joueurs de l'équipe de France sur place. Quel est le programme, Valentin ?
L'équipe de France ira directement à son hôtel à son arrivée, hôtel qu'elle occupera toute la compétition. L'arrivée est prévue ici en milieu d'après-midi, heure locale. Aujourd'hui, ce sera donc installation puis repos hein, pour récupérer du voyage de ces 6 heures de décalage horaire dans cette résidence 5 étoiles à la façade en pierre rouge qui est donc en plein centre de la ville, juste à côté du grand jardin public. Les Bleus connaissent, ils y ont déjà séjourné lors de leur tournée américaine en mars. À l'intérieur, ils ont deux étages privatisés uniquement pour les chambres, avec aussi une salle de fitness, des bains froids, des salons privatifs et même une chambre de cryothérapie pour gérer la chaleur. Des membres du staff sont d'ailleurs déjà sur place depuis plusieurs jours pour que tout soit en place à l'arrivée des joueurs. Et à partir de demain, l'équipe doit s'entraîner à la Bentley University, à 20 km à peine de son lieu de vie. Les séances seront quotidiennes ou presque, avec en tête donc l'entrée en lice contre le Sénégal mardi dans le New Jersey.
Et ce sera à vivre, bien évidemment, sur RMC. Valentin Jamin, qu'on retrouvait en direct de Boston ce matin. Elles aussi iront à la Coupe du Monde au Brésil l'an prochain. Les joueuses de l'équipe de France de foot qualifiées hier soir après leur succès 1-0, c'était face à l'Irlande.